Phil BM. Politique.
Maybe we guided with too wide of a range. By 2020, it will be a solid, sustainable, world-class organization. With Airbus, it's just going to take it to a different level.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ben c'est Alain Bellemare, le grand patron de Bombardier, qui participait à un appel conférence ce matin avec les investisseurs là et qui disait peut-être qu'on a pris trop large, hein? C'est ça, too wide, c'est bien ça, Paul Journet? Hein?
C'est une excellente traduction.
Et il dit qu'à partir de 2020, là, on va être World Class Organization. Ça va être toute une entreprise, là, ce qu'il nous dit Alain Bellemare.
Ça va être a lot of fun.
A lot of fun and we're going to be making a lot of money without laying off people, we hope.
After we have laid off the people.
After we have laid off the people, we will make tons of shitload of money, yeah?
Camion full of money, Bernard.
Yes, je suis Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Bonjour, hi.
Carl Bélanger, consultant stratège. Salut, Carl.
Allô, allô.
Donc, il nous donne finalement des nouvelles. C'est le fun, hein?
Il va bien?
Oui, je sais.
Je sais que tu t'inquiétais. Tu disais, écoute, est-ce qu'il y a un problème de stationnement ou peut-être un vilain rhume à porter du Benadryl à cet homme? Mais non, il va bien.
Oui.
On sait qu'il avait un horaire trop chargé pour expliquer sa décision de mettre à pied 2500 employés au Québec. Mais finalement, il a réussi à trouver un peu de temps pour aller parler des choses importantes avec les investisseurs à Toronto. Quand je dis des choses importantes, bien, c'est le rendement pour les actionnaires, les perspectives pour les investisseurs. Il n'a pas été trop question. En fait, il n'a pas été question, sauf erreur, des mises à pied. Il n'y a eu aucune question.
Y a-tu pris des questions en français? Ou
Moi, je vais me rapporter à ce que Sylvain Larocque, le journaliste, disait. Il dit que ce n'est pas la norme pour ce genre d'événement-là, qu'il y ait des questions qui portent sur les mises à pied, entre autres parce que les gens s'en foutent, parce que c'est des investisseurs, puis ce qu'ils veulent, c'est savoir on veut toujours optimiser ta restructuration au niveau de ton flux de trésorerie, en tout cas, c'est ça que...
Non, mais avais-tu moyen de participer à cette conférence-là, puis poser des questions, ou est-ce que...
Ça dépend qui t'es.
C'est une conférence qui est organisée par la Banque Scotia là, pour des investisseurs.
Fait exact.
Ben oui, si tu as de l'argent à investir, Bernard, peut-être que tu aurais pu être invité.
Sais-tu quoi? Je pense qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, des actions dans Bombardier, si ce n'est que parce que la Caisse de dépôt a des actions dans Bombardier et que le gouvernement du Québec a aussi des actions dans la C-Series qui était, il y a encore pas longtemps, du Bombardier. Et puis, on vient de donner un gros contrat de station de métro, de voiture de métro à l'usine de la Pocatière. C'est un petit peu nous autres. Il y a un petit peu de nous autres dans ce contrat-là. Hein? Ça va être payé avec les fonds publics. Bref, je pense que comme actionnaire, j'aurais pu participer, en effet, à cette conférence.
Oui, mais t'es dans le jus, Bernard. Tu me parles en ce moment. Mais sur le fond, ce que je comprends qui a été dit par M. Bellemare, c'est qu'il allait continuer le ménage pour augmenter la croissance de l'entreprise et augmenter aussi les marges de bénéfices. Ouais. Ce que ça signifie pour Bombardier, c'est continuer à se départir de ses actifs moins performants pour revenir à ce que l'entreprise faisait davantage avant, c'est-à-dire les transports, les avions privés. Les avions d'affaires. On revient en arrière, ce qui est un aveu d'échec par rapport à la stratégie qui a mené au sauvetage avec les fonds publics.
Parce qu'il y en a un méchant paquet d'actifs qui ont été cédés, là. Je regardais les Canadairs là, qui sont utilisés actuellement en Californie. Là. Les Canadairs, ça a déjà appartenu à Bombardier. Ça a été cédé.
Ouais.
Cette semaine, on a cédé les avions Hélice, les Q400. On a cédé toute la division formation simulateur. On a cédé, bien entendu, la série C. Puis là, à matin, sur les Regional Jets là, qui sont fabriqués à Mirabel, là, c'est loin d'être un gros vote de confiance envers les RJ là, qui ont fait le bonheur de Bombardier à un moment donné, là, les 50-75 places. Là. Il était... On va regarder ça. Pas sûr qu'on les garde. C'est ça que j'ai compris.
Pour l'instant, ça reste, mais c'est pas... pour l'instant, c'est l'instant.
Sous surveillance.
Je te dis que s'il fallait qu'on
Mais c'est un joyau. C'est un joyau, Bernard. Tu comprends pas.
Mais s'il fallait qu'on se débarrasse des RJ, là, je veux dire, il va falloir en vendre des gros jets d'affaires puis des Global Express à nos amis du Moyen-Orient, là. Et on va espérer que les Saoudiens continuent à faire du cash en masse pour nous en acheter de ces avions-là, tu sais. Moi, je suis inquiet un peu, je vous le dis. Je suis inquiet
un petit peu
qu'on se resserre sur ce marché des ultra-riches. Je sais pas. Regarde, je m'appelle pas Alain.
1030, oui. 1030. Il y a aussi, c'est pas juste les avions pour les avions d'affaires, il y a aussi le transport. Si on voit que c'est une division qui est plus profitable.
Le train.
La preuve, le métro, comme tu l'as mentionné, les nouveaux wagons qui ont été commandés, qui vont aller entre autres dans les usines de la Pocatière et de Sorel-Tracy.
OK. Enchaîne donc tout de suite, Paul, avec Amazon. Parce que je veux que, sois vulgarisateur, comme tu sais
sois
si
vulgaire,
bien,
hein,
comme
c'est
tu
ça
sais
que
si bien l'être. C'est quoi, là? Parce que d'un côté, Amazon décide de financer un prix, parce que si je comprends bien, les libraires québécois n'avaient pas l'argent pour le financer.
Ben,
donc, ils devraient être contents, mais en même temps, c'est comme le loup dans la bergerie.
Exact, c'est bien dit. Donc, on parle du prix littéraire collégien qui récompense l'excellence en littérature, puis ça sert aussi à donner le goût de la lecture aux cégepiens. Donc, ça procède en deux étapes. T'as un jury d'experts qui fait la présélection et ensuite, on demande à des cégepiens de choisir le gagnant. Donc, il y a plus de 800 cégepiens qui sont mobilisés pour débattre de notre littérature nationale. Ça existe depuis 2003, mais il y a eu un gros malaise vendredi quand on a annoncé la liste des finalistes. Bien, c'est là que les finalistes ont appris sur la scène qu'un commanditaire du prix, c'était Amazon. Pourquoi est-ce que ça les rend mal à l'aise? Parce que Amazon, la grande multinationale américaine, elle fait très mal à nos libraires indépendants. On sait que quand tu es libraire, ce qui donne vraiment des bonnes marges, c'est les livres neufs. Et Amazon, eux, vont, et tout comme Costco, c'est eux qui vont aller offrir des gros rabais sur les livres neufs. Pour aller chercher toute la clientèle payante. Puis on le sait, les libraires, c'est essentiel à la vitalité de notre littérature. Premièrement, ils vont faire, c'est eux qui vont faire la promotion de nos petits auteurs sur la vitrine à l'extérieur,
Amazon, ça,
dans les présentoirs à l'intérieur et aussi dans la discussion que tu vas avoir à ton libraire. Combien de fois ça m'est arrivé d'entrer chez mon libraire puis je ressors de là avec un livre que j'avais jamais pensé acheter à mon arrivée. Donc, eux, ils voient que ceux qui font mal à ce maillon-là essentiel de notre écosystème de la littérature, les libraires indépendants, ceux qui leur font mal, Amazon, ben ils s'associent au prix en se donnant une très belle visibilité.
Oui, mais Paul,
Paul,
il n'y avait pas personne d'autre, si je comprends bien, pour mettre l'argent pour le prix.
Il ben, y a déjà d'autres personnes qui le financent, puis en effet, il faut donner le point de vue aussi de ceux qui ont pris cette décision-là. Ils disent on a déjà des fonds publics, on a déjà d'autres personnes qui nous aident, mais on cherchait un gros commanditaire, on n'avait pas réussi à l'avoir, parce que tu as des dépenses pour les gens bon, qui se promènent là, d'un cégep à l'autre, qui vont présenter les œuvres.
C'est quoi la solution? Plus de fonds publics pour remplacer l'argent que Amazon met dedans?
Écoute, il faudrait qu'on sache c'est quoi les autres offres de financement privé qu'on avait eues, puis c'est quoi le pourcentage d'argent qui vient d'Amazon.
Mais tu sais bien
pas moyen de l'avoir, mais moi, je comprends à tout le moins le gros malaise.
Mais moi, je vois le risque.
Bravo aux finalistes de notre littérature qui sont capables de dire, regardez, on va pas juste sourire devant les Kodak puis attendre notre prix puis être très content. Il y a autre chose que notre petit cas qui nous intéresse, c'est l'avenir de notre littérature nationale
Paul,
puis les libraires.
Paul, regarde, tu sais mon une opinion là-dessus. C'est sûr que la littérature québécoise...
Mais toi, tu te demandes, est-ce que eux auraient pu avoir... Est-ce que le prix était menacé si Amazon ne finançait pas? C'est la question qui se pose.
C'est
ce qu'eux aussi tiennent. Moi, j'ai pas tous les chiffres en main pour être capable de dire qui a raison, qui a tort par rapport à ça.
Si c'est entre maintenir le prix avec l'argent d'Amazon... ou laisser tomber le prix faute de commanditaire, tu fais quoi?
Ben, je pense pas que ce soit si simple. Ça, cette façon-là de présenter les choses, c'est à l'avantage d'Amazon.
Mais
parce
ils ont eu d'autres commanditaires dans le passé. Mais... Ils ont eu la Banque nationale, ils ont eu Québécois qui était là. Mais en même temps, on blâme toujours Amazon en disant qu'ils sont déconnectés de la réalité québécoise. Les voilà qui s'impliquent dans la culture québécoise en finançant un prix qui, semble-t-il, avait besoin de quelqu'un pour les soutenir. Puis là, on les attaque encore. À un moment donné, il faudra décider, là. Il y a un modèle d'affaires qu'Amazon est en train de développer, qui est fort populaire. Mais avant Amazon, les libraires indépendants blâmaient les grandes chaînes, ils blâmaient ci, ils blâmaient ça. La réalité, c'est que la façon de consommer des gens évolue. Puis c'est vrai pour la culture aussi.
Oui, mais c'est parce que eux, ce qu'ils vont te répondre, en tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est que ça va un peu au-delà de la consommation. On peut avoir une approche un peu plus protectionniste, un peu plus interventionniste pour l'industrie du livre si on estime que ça va au-delà des simples habitudes de consommation puis qu'il y a une valeur intrinsèque au livre.
Ouais.
Mais je comprends le dilemme de ceux qui cherchent à préserver le prix des collégiens et à s'assurer qu'ils soient assez bien financés. Mais tu sais,
C'est ça?
Oui, mais encore une fois, moi, je ferai attention avant de dire que sans Amazon, le primeur,
Je peux pas croire, Paul, que le monde qui préside ce prix-là ont fait par exprès pour nuire aux libraires indépendants. Là,
mais
voyons
non, mais
donc.
C'était pas ça leur réflexion.
Alors, c'est quoi? C'est une erreur de jugement? Ils auraient pu trouver l'argent ailleurs, puis ils ont pris le premier venu, ou... Il y a une explication.
C'est sûrement pas le premier venu. Là. Comme je te dis, il y avait la Banque nationale dans le passé, il y avait Québécois, il y en avait sûrement d'autres. Ils sont sûrement allés cogner à ces portes-là en premier avant de se tourner vers Amazon.
En tout cas, dossier à suivre. Dossier à suivre. On va s'arrêter au retour. Carl, tu vas nous parler de ce conflit Québec-Ottawa là, qui se profile à l'horizon autour des frais payés par les patients quand on va dans des cliniques, par exemple, pour obtenir une résonance magnétique ou un scan. Là, Ottawa a dit à Québec, vous devez arrêter de faire ça. Sauf que si les cliniques arrêtent de faire ça, ça veut-tu dire que ces cliniques-là vont mourir? Ça, c'est une question que je vais te poser. Carl, prépare-toi dans un instant.
98.5. Circulation.
De retour avec Paul et Carl. Donc, Carl, explique-nous donc le contenu de cette lettre envoyée par Ottawa pendant l'été à M. Barrette, qui était à ce moment-là ministre de la Santé.
Oui, mais écoute, essentiellement, c'est une lettre de la ministre de la Santé qui fédérale qui ordonne de mettre fin à certains examens effectués au privé et payés par les patients. Ce que le fédéral veut, c'est que le Québec arrête de permettre aux patients de se payer une consultation privée pour obtenir des résultats de tests plus rapidement. Autrement dit, de sauter la ligne d'attente, de passer plus vite aux résultats. Résonance magnétique, souvent analyse sanguine, différents scans, imagerie médicale. Donc, c'est le genre de procédure dont on parle ici. Et pour Ottawa, ce genre de pratique contrevient au principe d'universalité de la loi canadienne sur la santé. Et c'est un enjeu qui revient périodiquement entre Ottawa et les provinces, et dans ce cas-ci, là, Ottawa prend des grands moyens en disant « faut que ça cesse, faut trouver un moyen pour que les clients, les patients ne paient plus pour ces services-là. »
Ouais,
l'ultimatum, okay. Ouais, l'ultimatum, c'est que ça prend une procédure pour répondre à ta question avant la pause. Là. Ottawa ne demande pas aux cliniques de fermer, aux cliniques de cesser d'offrir ces services. Ottawa dit à Québec, c'est à vous de payer ça. C'est à vous de mettre une procédure en place pour rembourser les patients s'ils doivent utiliser une clinique privée. Et donc le service peut être rendu quand même, mais c'est pas aux patients de sortir sa carte de crédit et de payer la facture pour un service qui est assurable et assuré dans le public, mais qui n'est pas fourni en temps et lieu.
Le problème,
donc, c'est un peu ça qui se passe.
Je comprends, Carl. Mais le problème, c'est que, si, de façon générale, les gens qui vont dans ces cliniques-là, puis je suis tout à fait conscient du fait que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ces cliniques-là, mais de façon générale, quand tu y vas, c'est parce que t'as pas le goût d'attendre 3, puis 4, puis 5, puis 6 mois avant d'avoir ton analyse ou ton scan ou ta résonance magnétique au public. Tu sais, on te dit, oui, t'as un rendez-vous pour une résonance, mais tu vas être obligé. Alors, tu veux savoir, là, tu sais, t'es inquiet pour ta santé. Alors, ouais. ça te fait quiller, comme on dit, d'être obligé de payer pour aller au privé parce que tu payes déjà assez de taxes et d'impôts pour aller au public. Mais entre te débarrasser de ton inquiétude puis savoir une fois pour toutes ce que tu as, ou attendre 6 mois pour avoir ton scan à l'hôpital. Il y a bien du monde qui passe par les cliniques privées puis qui accepte de payer une couple de centaines de piastres.
Certainement. Et puis, c'est normal. Les gens sont inquiets, veulent avoir des réponses rapidement. Et même, des fois, les médecins recommandent fortement d'aller voir la clinique privée pour faire ces tests-là parce qu'ils veulent obtenir les résultats plus rapidement aussi.
Alors, qu'est-ce que Ottawa va faire, là? Il va dire à ces cliniques-là, tu peux plus. Mettons que Carl Bélanger ou Bernard Drainville se présentent dans cette clinique-là. Vous avez plus le droit de leur donner la résonance magnétique même s'ils veulent payer pour?
Non, en fait, la cible d'Ottawa, c'est pas les cliniques privées, c'est le gouvernement du Québec. Si les frais continuent d'être payés par les patients en dehors du système, donc un système à deux vitesses, bien, Ottawa va réduire les transferts en santé.
Il va pénaliser tous les patients du Québec en diminuant l'argent.
Voilà, il va pénaliser les provinces, le gouvernement, en disant « Le gouvernement, c'est votre responsabilité. » En contrepartie, si les provinces, si le Québec décide d'assumer ces frais-là avec une formule de remboursement pour les patients...
Ben, un peu comme ils ont décidé de le faire avec les échographies. Les échographies, on pouvait payer auparavant. Et Gaétan Barrette a décidé qu'on pouvait plus payer de frais accessoires justement pour avoir une échographie. Et c'est devenu un service assurable maintenant, l'échographie.
Et voilà. Et dans le cas qui nous occupe, évidemment, on parle des services qui sont déjà assurés. Et là, si les provinces décident d'obtempérer, est-ce qu'ils peuvent se retourner vers Ottawa puis demander des fonds fédéraux supplémentaires en matière de santé? C'est pas impossible que ça se fasse. Tout se négocie. Mais présentement, l'échéancier d'Ottawa, c'est que d'ici 2020, ça va prendre une procédure pour ne plus facturer aux patients les services diagnostiques ou à tout le moins les rembourser. Et à partir de décembre 2022, toutes les provinces devront fournir à Ottawa des données sur les frais imposés aux patients pour les services diagnostiques. Donc, il y aura un système qu'Ottawa va mettre en place pour s'assurer que la loi et les principes de la loi canadienne sur la santé soient respectés.
Je me demande qui va sortir gagnant de ça, Carl. Je me demande qui va sortir gagnant de ça, parce que si tu as des assurances privées, là, je réfléchis à voix haute, là. Mettons que tu as des assurances privées, puis que dans l'intérieur de ton régime d'assurance, tu as droit à ça, tu pourras plus recourir à des assurances pour avoir droit à ces services-là. Je sais pas trop là comment dans la réalité des choses les affaires vont se faire, parce que les assureurs pourraient actuellement, il y a beaucoup de gens là, on a des assurances privées là, au travail là. Oui. S'ils décidaient d'inclure dans le panier de ce qui est couvert par tes assurances les résonances magnétiques puis les scans, à ce moment-là, je me demande si Ottawa est pas en train de faire une faveur aux assurances, moi là, aux compagnies d'assurance. Je me demande s'il n'est pas en train de créer conditions pour que les compagnies d'assurance profitent de cette décision-là. En tout cas, on y reviendra parce que c'est pas avant 2020, mais c'est à suivre. Carl Bélanger, je rappelle que tu es consultant, stratège, notamment politique. Merci, Carl. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Toujours un plaisir.
Merci.
On va se reparler demain. Après la pause, je vais vous parler du contact visuel, le fait qu'on a de moins en moins de contact visuel à cause de nos téléphones intelligents.